On va voir avec mon groupe si on a quelques méthodes particulières pour accéder, en tout cas effleurer ce merveilleux concept de bonheur. Et puis après, en gros, on reviendra, bien évidemment, pour engager le débat avec vous, si vous le voulez bien. En gros.
Politique du bonheur, qu'est-ce qu'il faut faire pour être plus heureux au niveau d'un seul, pays, d'accord, au sein d'un seul pays. Alors, je prends mes notes. Alors, donc, il fait gris, il fait pas très beau, j'ai raté mon train, je considère que c'est mon devoir de vous déprimer. Ok, donc, c'est ce que je vais essayer de faire ici, c'est une présentation qui est en deux parties. La première partie pose la question, est-ce que l'argent amène le bonheur? La réponse, pas trop. Ok? Donc ça c'est assez déprimant. Deuxième partie de la présentation, qu'est-ce qu'il faut faire alors si le PIB par tête ne suffit pas pour le bonheur? Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Et la réponse, c'est qu'on n'a pas la moindre idée. Ok? je m'assois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà. Oh, je suis économiste, hein, je vous l'avoue, là. Je suis économiste et je suis micro-économètre appliqué. Ça, c'est un très gros mot. Ça veut dire qu'on joue avec des chiffres. OK? Mais je me suis donné le défi de vous faire une présentation presque sans chiffres aujourd'hui, juste pour vous donner l'idée des sujets qu'on traite et des résultats qu'on a trouvés. Donc, pour être heureux, suffit-il d'avoir assez d'argent ou bien est-ce qu'il faut faire autre chose? Et là, je souligne quand même, une fois qu'on est assez riche, toutes ces analyses que je vais vous présenter aujourd'hui ont été faites dans les pays de l'OCDE. Donc, soyons très clairs, on est en train de parler de l'économie politique des pays riches. Ok, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on est assez riche? On n'est pas en train de parler de ce qu'il faut faire pour tous les pays du monde, y compris les pays en voie de développement. Il faut quand même souligner ça. Ok, première partie de la présentation, plus de consommation, plus de revenus. Est-ce que ça c'est suffisant pour amener le bonheur? Et je vais dire peut-être, mais en fait sans doute non. Pourquoi pas? Pourquoi c'est pas bien d'avoir plus de choses, hein? L'économie, si l'économie nous a enseigné quelque chose, c'est que plus de choses, c'est bien, hein? Plus on consomme, plus on est content, c'est génial. Ok, donc ça c'est presque vrai, mais c'est pas totalement vrai. Je nuance un petit peu. Plus de choses, c'est très bien, mais du moment que moi j'ai plus de choses et vous en avez pas. Okay? Donc l'idée ici, c'est que bonheur partagé est moins réjouissant dans le sens où je compare ma consommation à votre consommation. Donc moi, je m'achète un BMW Series 3, je suis ravi, c'est génial. Vous en achetez une aussi, je me dis, bah non, ça va pas parce que ça a l'air moins bien. Donc l'idée, c'est qu'on se compare les uns aux autres et les autres aux uns aussi. Donc notre fonction, ce qu'on appelle les fonctions en économie, de bien-être, peut bien être quelque chose comme ici. W, c'est mon bien-être, welfare, well-being, qui est fonction de ce que je gagne moi, fonction positive, hein, plus je gagne, plus je suis heureux, mais fonction négative de quelque chose qu'on appelle Y étoile, ce qui est le revenu d'autrui ou le revenu de comparaison. Okay? Et dans ce sens-là, quand on gagne tous plus d'argent, c'est pas encore dit qu'on soit tous plus heureux. Okay? Pour les raisons de comparaison aux autres. Donc ça c'est une jolie idée, c'est une idée qu'on trouve en économie, sociologie, psychologie, sciences politiques, gestion, etc. Mais il faut quand même le tester avec les données pour voir si c'est vrai. Hein? Il ne suffit pas de le dire pour que ça soit vrai, il faut quand même le tester dans les grandes bases de données. Par grande base de données, en économie, on parle des sondages sur entre 5 000 et 1-2 millions de gens. Okay? Donc c'est un nombre de points assez élevé. Ce qu'on trouve dans ces données, si on regarde le bien-être individuel en fonction du revenu individuel et le revenu d'autrui, okay? Cette Y étoile, on va en parler après si vous voulez, voilà. Quelques idées, le revenu des pères, les gens qui sont un peu comme moi, le revenu de mon conjoint, ou bien le revenu d'autres membres du même foyer, on trouve ce genre de relation. Ma satisfaction ou bien-être croît avec mon revenu à moi, à un niveau de revenu d'autrui constant. Okay? Plus je gagne, plus je suis content. Donc c'est vrai, l'argent amène le bonheur. Mais aussi, on trouve que plus que vous gagnez, moins je suis content. Okay? Et ça va pour les groupes de comparaison professionnelle, ça va pour les autres adultes dans le même foyer, ça va plus ou moins pour les voisins, et ça va même pour le conjoint. Donc, son conjoint rentre, chérie, j'ai une super augmentation. Alors, ma satisfaction diminue avec le revenu d'autrui à un niveau de mon propre revenu constant. Alors, satisfaction augmente avec mon revenu, diminue avec votre revenu. Tout le monde a une augmentation de revenu. Qu'est-ce qui se passe? Pas rien. Donc ça, je fais ça de façon un peu fun, mais ça, c'est le résultat statistique. Alors, quand on fait des analyses statistiques là-dessus, c'est un peu le résultat qu'on trouve dans les données, et c'est les résultats qui sortent maintenant des analyses en neuroimaging, en neurosciences aussi, en revenu relatif. OK, donc ça, c'est la première raison pour laquelle l'argent n'amène pas le bonheur, c'est que moi, je me compare à vous, et vous, vous comparez à moi, donc ça ne va pas, quoi. On ne peut pas être tous les deux plus riches que l'autre. OK. Idée de comparaison aux autres. Deuxième raison, c'est l'accoutumance. Ceci, c'est un type de comparaison aussi, mais non pas en comparaison aux autres, mais en comparaison à soi-même dans le passé. OK? Donc, plus j'ai gagné dans le passé, plus il me faut maintenant pour être heureux aujourd'hui. L'idée qu'on s'habitue à l'argent, ou bien peut-être on s'habitue aux choses que l'argent peut acheter. Okay? En anglais, on a l'idée de golden handcuffs, les menottes en or. Si on gagne un super revenu pendant assez d'années, c'est impossible de faire marche arrière, parce qu'on s'y est habitué. Okay. Encore une fois, pour regarder ça dans les données de panel, comme on les appelle, où on suit les mêmes individus d'année en année en année, et on trouve une relation comme ceci, ou ceci. Ici, on a quelqu'un qui, à un moment donné, a une augmentation de revenu. Chic, super, ça c'est bien, hein? Parce que mon revenu, maintenant, ça a l'air bien par rapport à mon revenu l'année passée. Mais au fur et à mesure, l'année passée, le revenu de l'année passée augmente aussi, parce que ça devient le revenu augmenté. Et en fait, le bonheur diminue jusqu'au point où on était au début. Donc l'argent marche, mais pas pour très longtemps, parce qu'on s'y habitue. Ok, voilà. Ok, on va sauter ça. Donc deux raisons pour lesquelles l'argent n'amène pas forcément le bonheur, au moins à terme. Ok, moi j'aime bien ces deux explications, comparaison sociale et accoutumance, parce que les deux, ou bien l'un ou l'autre, peut expliquer le phénomène qu'on appelle le paradoxe de Easterlin. Ok? Et ça veut dire que quand on fait un graphique du... Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouh! Reprends-tu dire un
comme ça, ça doit être bien, ouais.
Yes. All right. Okay. Personne ne touche. Okay. The paradox d'Easterlin, ça veut dire ici c'est démontré pour les États-Unis sur 30 années de 73 à 2003. La ligne bleue, c'est le PIB réel par tête, et que vous voyez que ça augmente de presque de 100%, de 20 et quelques mille dollars jusqu'à presque 40 000 dollars par tête. La ligne noire, c'est le bonheur moyen individuel, ok, dans les États-Unis. Et le bonheur moyen ne bouge pas, d'accord, est absolument plat. Donc, quand on regarde ça, on se dit, en fait, l'argent n'amène pas le bonheur dans le temps. Il est vrai que donc, au sein d'un pays, les gens qui sont plus riches sont plus contents que les gens qui sont plus pauvres pour les raisons de comparaison sociale, mais quand tout le monde reçoit une augmentation de revenus, ça ne fait rien à terme. Et c'est ce qu'on semble voir dans ces données-là. On peut faire la même graphique pour la France, pour l'Allemagne, pour le Royaume-Uni. Ok, donc ça c'est la conclusion de la première partie de la présentation. Le revenu risque de ne pas marcher. Ok, or, qu'est-ce qu'il faut faire? En termes d'économie politique, qu'est-ce que le gouvernement faut faire? Qu'est-ce qu'il faut que le gouvernement fasse pour augmenter le bonheur individuel, le bonheur national? Puisque le revenu ne marche pas, il faut trouver autre chose. On a parlé de l'âge, le gouvernement ne peut pas rendre les gens plus vieux. Donc ça, ça ne va pas, il faut trouver autre chose. Il y a des idées dans la littérature, l'idée qu'il faudrait avoir un bon travail, au moins un travail tout court, l'idée qu'il faudrait avoir un bon mariage, super famille, etc. L'idée de social capital, le capital social, de Bob Putnam, et là il y en a d'autres, liberté, démocratie, santé et religion. Alors, ok, très bien, ça c'est des bonnes idées, hein, c'est des bonnes suggestions. Le problème ici, c'est qu'on n'a jamais testé l'hypothèse que les phénomènes de comparaison sociale et d'accoutumance, bon, s'appliquent, d'accord, s'appliquent aux revenus, mais s'appliquent aussi, peut-être, hein, au mariage. Dans le sens... Non, 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 rigolez pas. J'ai des histoires pour vous. Alors, donc mon idée ici, c'est de tester l'hypothèse de comparaison sociale et faire cliquer par rapport aux autres événements de la vie. Ok, on va commencer par le chômage. Est-ce qu'il est vrai que le chômage fait mal? Ah, là, bah oui. C'est un des trucs le pire qui puisse vous arriver. C'est très dur. Là, vous avez le niveau de satisfaction dans la vie moyenne dans les données de ECHP, dans les données européennes, et vous voyez que les chômeurs sont tout en bas. C'est vraiment pas bon d'être au chômage. Là, c'est un scoop, hein. Mais bon, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a des comparaisons sociales? Moi, je dirais que oui. Ceci est un graphique avec... Bon, c'est pas très compliqué, mais quand même, essayons. C'est la différence de bien-être entre les employés et les chômeurs sur le Y-axis. C'est ce qu'on appelle ça, déjà? C'est l'ordonnée. Ok, sur l'ordonnée, sur l'abscisse, c'est le taux de chômage régional. Ok, j'explique ça. Ça veut dire, ce graphique veut dire que le chômage fait toujours mal, il y a toujours une perte de bien-être liée au chômage, hein, mais cette perte diminue avec le taux de chômage régional. Autrement dit, première scoop pour vous, si vous allez être chômeur, il faut être chômeur dans une région à taux de chômage élevé. Ok? Avec beaucoup d'autres chômeurs. Parce que comme ça, il y a moins de stigmes. Comme si on se comparait notre chômage les uns aux autres. Ok, je vais à la limite parce qu'il me reste peut-être un peu encore. Ok. À ce moment-là, je vais pas vivre. Alors je vais très bien. Il faut pas se presser. Ok, ici c'est une autre illustration de ce phénomène de comparaison du chômage. Ok, c'est les données britanniques, cette fois-ci, on sait que les britanniques sont un peu bizarres, mais bon, continuons quand même, j'ai pas les données pareilles sur la France. Ici, je regarde, vous regardez juste à droite, hein, ne regardez pas à gauche, parce qu'on regarde en parallèle. Ici, je regarde les couples, ok, deux individus dont les deux sont actifs au marché du travail. Actifs, ça veut dire soit ils ont un emploi, eux, soit ils sont au chômage, U en emploi. D'accord? Ok? Donc, on a quatre cas de figure à ce moment-là. EE, EU, UE, UU. Ok? Et on va regarder l'effet sur le bien-être individuel de ces quatre cas de figure. Quel est le meilleur des quatre cas? Bon, comme vous pouvez imaginer, c'est EE. Moi, je travaille, mon conjoint travaille. Voilà, ça c'est le EE, là. Ils ont un, c'est une espèce de taux prédit de bonheur, si vous voulez, de 58%. Maintenant, mon conjoint tombe au chômage. EU, ça diminue mon bien-être un peu. Ok? Quel est le pire des cas? Le pire de tous les cas, juste comme ça, on imagine que ça doit être UU, ça doit être terrible. Hein? Moi, je suis au chômage, mon partenaire est au chômage. Il n'en est rien du tout. Le pire, c'est UE. Moi, je suis au chômage, mais mon partenaire, mon conjoint, travaille. Ça, c'est le pire de tous les cas. Et en fait, UU, c'est pas mal. C'est entre les deux. Encore une fois, comme si on se comparait sa situation les uns aux autres. Et cette fois-ci, c'est une comparaison au conjoint. Ok, maintenant je vais vous parler des effets de cliquer, les effets d'accoutumance aux choses de la vie. Est-ce qu'on s'habitue au chômage? Et la réponse ici est non. Encore une fois, ici on va utiliser les données de panel où on suit le même individu, d'accord? D'année en année, en année en année, et on va regarder l'évolution de son bien-être autour d'un événement dans sa vie. Ici, l'événement, c'est que je tombe au chômage. Ok? Et vous voyez, on commence à 4 ans avant le chômage, jusqu'à 0, où l'individu tombe au chômage, et après, on le suit jusqu'à 5 ans après. Ici, vous allez donner à la main. Ok? Comme vous pouvez voir, le fait de tomber au chômage, c'est très mal, c'est très mauvais pour le bien-être, et ça continue à être mauvais pour le bien-être. Donc moi, je dirais qu'il n'y a pas d'adaptation ou habituation au chômage. Donc ça, c'est un truc à dire. Le chômage est mal et ça continue à être mal, peu importe sa durée. Ok. Maintenant, on va regarder le mariage. Okay. Est-ce que le mariage est bon pour le bien-être? Et la réponse, c'est que oui, jusqu'à 24 mois. Encore une fois, c'est le même genre d'analyse. En fait, le fait d'être marié, c'est surtout bien avant d'être marié. Vous voyez, le bien-être augmente jusqu'à l'année zéro, là, où on se marie, et après, bon, on est au milieu, et voilà. Et même pour les femmes, 5 ans après, c'est pire qu'avant. Divorce? Qu'est-ce que je peux vous dire sur le divorce? Le divorce, c'est une bonne idée, hein? Non, mais quand on regarde ça, le divorce est rationnel si on veut. Dans le sens qu'on se divorce, on se sent mieux. Hein? Et le divorce, c'est surtout terrible juste avant. Ok? En fait, un des trucs que j'aime bien ici, regardez la différence entre les hommes et les femmes. Okay? Les hommes, 4 ans avant, ça ne va pas, 3 ans avant, ça va, c'est même pire, 2 ans avant, 1 an avant, c'est l'enfer, etc. Et l'année où je divorce, ça va, et après, ouais. Alors, ce qu'on trouve pour les femmes, c'est pareil. Mais regardez un peu. 4 ans avant, 3 ans avant, 2 ans avant, ça va pas, 1 an avant, c'est bon. Et en fait, ça nous révèle que, je crois que le chiffre, c'est 75% des divorces sont initiés par la femme. Ok? Donc, ce qu'on trouve ici, c'est 1 an avant où la femme a décidé, bah, ça, ah, j'en ai marre, ça y est, je sors d'ici, et l'homme, il voit rien venir.
un tout petit peu plus sévère. Ça, c'est le même effet de cliquer pour le veuvage. Le veuvage, c'est la pire des choses qu'on a jamais identifié dans les données de panel. C'est vraiment le truc le pire, mais même là, on voit le même rebondissement, comme on l'appelle, bouncing back. OK. Je termine avec nos enfants. Est-ce qu'on peut compter sur nos enfants? Avant qu'ils soient nés, oui. Ce qu'on voit ici, c'est que vraiment, le fait d'avoir des jeunes enfants, et tout le monde m'engueule, vraiment. C'est pas que je pense ça. Tout le monde vient me voir après et me dit, mais mes enfants sont magnifiques. C'est les enfants des autres. OK. Moi, j'ai des enfants aussi. Une chose que je veux dire ici, c'est on regarde le moment où l'enfant est né, ce qui est un bon moment. Un an après, c'est moins bien, mais 2 ans après, on ne parle pas. Mais ça commence à remonter vers l'âge de 5 ans. D'accord? Donc, mon espoir, c'est que quand je suis vieux et sénile, mes enfants ils vont s'occuper de moi et je vais être content d'en avoir. Donc peut-être après 5 ans, cette ligne-là devient positive, ça c'est mon espoir. OK. Je retourne sur les comparaisons sociales. Est-ce que j'ai...
Bon, bien sûr.
Merci beaucoup. OK. Je retourne sur les comparaisons sociales et je veux considérer capital social. Et encore une fois, sans vous montrer les résultats des régressions qui sont assez parlants à regarder, même à faire d'ailleurs, je vais juste vous décrire les résultats principaux ici. Les individus aiment bien les activités sociales. Donc le capital social, c'est important. Le fait d'être membre d'un club, de sortir, de faire des choses avec des gens, c'est bien. Mais encore une fois, au niveau du ménage, c'est l'individu qui est le plus social, qui est le plus content. Encore une fois, comme si je comparais mon activité sociale à votre activité sociale. Donc le fait de sortir, c'est bien, mais si je sors plus que vous, je suis encore plus content. Okay? Comme si on se comparait le fait d'aller au pub. Hein? Ça, c'est les activités sociales. La religion. Je me suis dit, bon, puisque ça marche pour le chômage, ça marche pour les activités sociales, ça doit marcher pour la religion aussi. On doit se comparer pour la religion, et en fait, ici, ça ne marche pas. Et ce qu'on trouve, c'est que, il y a deux choses. Si moi, je suis religieux, je suis content. OK? Donc ça, c'est un truc comme une politique, hein? Il faut subventionner les églises. Donc, si je suis religieux, je suis content. Si vous êtes religieux, et moi j'habite à côté de vous, moi je suis content aussi. OK? Donc il y a une espèce d'externalité qui vient de vous vers moi, qui vient de votre religion. Et moi je me disais, bon, ça doit dépendre religieuse personnelle aussi. Moi, si je suis catholique, je suis content d'habiter avec un catholique. Si je suis protestant, je suis content d'habiter avec un protestant. Et en fait, ça ne va pas comme ça. C'est juste une espèce d'externalité générale. Hein? Les gens religieux rendent les autres gens religieux contents, mais rendent les athées contents aussi. En fait, personne ne veut habiter avec les athées, y compris les athées eux-mêmes. Je termine peut-être.
En fait, je ne sais pas où ça va. Qu'est-ce qui se passe après?
Ah oui, OK, très bien. Je termine alors. Ça, c'est mon avant-dernier slide. Je veux parler de la santé. C'est notre sujet de recherche très actuel, très important. Et je voudrais voir s'il y a des phénomènes de comparaison sociale par rapport à la santé. Mauvaise santé, c'est une mauvaise chose, d'accord? On est tous d'accord. Mais si moi j'ai une mauvaise santé, et vous avez une mauvaise santé aussi, donc. Peut-être que ça va, hein, parce qu'on se compare les uns aux autres, on n'est pas très en forme, mais bof, moi, vous n'êtes pas mieux que moi. Hein. Donc voilà, on va essayer si on peut voir l'évidence de ce phénomène-là. On trouve que mon propre problème de santé a moins d'effet sur mon propre bien-être quand je les partage avec d'autres membres de mon ménage. Comme si, Donc si moi j'ai un problème à monter l'escalier, et mon mari aussi a un problème de monter l'escalier, donc c'est moins grave pour moi. Ok, ça c'est une chose. La deuxième chose qui m'intéresse beaucoup, c'est l'indice de masse corporelle. Ok, le poids, poids de vide. Ok, l'indice de masse corporelle, c'est quoi déjà? C'est le poids en kilo divisé par la taille en mètre carré. Ok, donc vous allez juste pour voir calculer votre propre indice de masse corporelle, je ne vous dis pas le mien. Ok, c'est un phénomène médical, 25 c'est considéré normal. En-dessus de 25, on est en surpoids, en-dessus de 30, on est obèse. Ça c'est la définition médicale, d'accord? Ok, première chose à dire, si on regarde ce que les gens disent, est-ce que vous avez un problème de surpoids, oui ou non? Parce qu'il y a certains qui disent oui, certains qui disent non. Les gens qui habitent dans les régions où les gens sont plus gros, où le poids moyen est plus élevé, ils ont moins tendance à dire « moi j'ai un problème de surpoids ». Autrement dit, si on est entouré de gros, ce sont moins gros. Okay? Donc ça c'est un résultat régional. La dernière chose que j'ai regardée, c'est les comparaisons au niveau du foyer, au niveau du ménage. Ici, c'est avec les données allemandes et britanniques. Je regarde les couples, hein, les conjoints. Deux individus. Deux individus dont les deux ne sont pas en surpoids sont contents. On va dire, ok, pas le but. Un couple dont les deux membres sont tous les deux obèses sont contents. Ok, le pire, le problème, c'est un individu qui n'est pas en surpoids, le deuxième individu qui est obèse. Et ça, c'est le cas. Ok, c'est comme si on se comparait notre poids l'un à l'autre, encore une fois. Ok, donc, comparaison sociale même par rapport au indice de masse corporelle. Pourquoi c'est important tout cela? Parce qu'on croit, on imagine, on sait en fait épidémiologiquement que le surpoids et surtout l'obésité, c'est mauvais pour la santé, ça réduit l'espérance de vie, etc. Le problème, c'est que si on devient tous un peu plus ronds, on n'a pas l'incitation à perdre du poids, parce qu'en fait, ça va, on ne se sent pas mal, mais il y a des implications énormes pour la santé nationale, pour la santé publique. Ok, donc je termine. Ça, c'est mon slide d'économie politique. Comme vous voyez, il y a plusieurs lignes ici, plusieurs domaines de la vie. Ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de dire ce qu'on sait sur les comparaisons sociales dans ce domaine-là et l'habituation-adaptation dans ce domaine-là. On commence par le revenu. Est-ce qu'il y a des comparaisons sociales? Oui, je crois. Est-ce qu'il y a un effet d'accoutumance? Oui, je crois. Donc ça veut dire que l'argent ne suffit pas pour le bonheur. C'est un mauvais instrument pour le bonheur, encore une fois, dans les pays riches, d'accord? Ok, donc, moi je crois que c'est vrai. Le problème dans l'économie politique du bonheur, comme on l'appelle, c'est que les gens ont tendance à lire la première ligne et dire, bah, l'argent c'est nul, ça ne marche pas, on va faire autre chose. Sans tester l'hypothèse qu'il y ait les mêmes comparaisons sociales, les mêmes effets de cliquet dans l'autre domaine qui est proposé. Ok? Ce qu'il faut faire, il y a deux choses qu'il faut faire ici, après je me tais. Il y a deux choses qu'il faut faire ici. La première, c'est de remplir toutes les cases. Là, il y a pas mal de cases avec les peut-être, mixtes, les points d'interrogation, mon préféré, c'est deux points d'interrogation et un oui et non. Ça veut dire que vraiment, je n'en sais rien. Il faut remplir toutes les cases, d'abord. Deuxièmement, si on veut trouver une politique qui va vraiment augmenter le bonheur individuel et national, il faut trouver une ligne qui dit non, non. Ok? Pas de comparaison sociale, pas d'habituation, et c'est sur cela qu'on est en train de travailler actuellement. Merci.
Merci.
tous rentrer chez nous, on va essayer d'abord d'imaginer la prochaine ligne. Oui. Celle qui manque.
Bon, moi, j'ai mis Pierre.
Pardon.
Ça, c'est bon.
Il va revenir la santé ensuite, dans un deuxième temps. Donc, et puis, on essaiera de trouver les deux noms nécessaires à la réalisation de ce définitif de ce tableau. Donc, voilà les travaux, une partie donc, des travaux qui sont réalisés en ce moment par nous à l'École d'économie de Paris sur ce fameux bonheur qu'on cherche tous. Et que, apparemment, on ne soupçonnait pas parfois qu'on avait des effets de cliquet aussi forts à la maison. Donc, apparemment, on va en parler, il y aura des discussions assez intéressantes. Donc, c'est maintenant à vous, évidemment, d'essayer de creuser sur des points qui vous semblent plus pertinents encore que ce que je pourrais évoquer, ce que vient de dire en gros et ce qu'a dit Nicolas tout à l'heure. Donc, on va tout de suite démarrer là-bas. On a 25 minutes ensemble pour débattre et discuter, donc on a beaucoup de temps. Hein. On va pouvoir approfondir tous ces tableaux.
Merci, j'aime beaucoup ces études sur le bonheur, mais j'ai quand même deux petits problèmes au moins. Le premier problème est mariage et bonheur. Parce que vous avez dit que si on se marie, le bonheur va augmenter, au moins pour 24 mois. Mais en effet, ce n'est pas comme ça qu'il y a un problème de causalité. Moi, je parle un peu plus fort.
La causalité qui n'est pas aussi excessive. Voilà. Qu'il y a un problème de causalité dans le sens que ma copine ne va pas me marier si moi je ne suis pas content. Alors, parce que je suis content, je vais me marier plus facilement. Ça, c'est le premier petit problème que j'ai eu. Et le deuxième problème, qui est peut-être un peu plus grave, que c'est sur le fait de s'adapter à un revenu plus élevé. Parce que vous avez montré que si mon revenu augmente, alors il y a un effet positif au début, mais après, je vais m'adapter. Okay? Mais vous avez caché que pour vos études, pour le bonheur, il y a une échelle fixe. C'est entre 0 et 10. Alors, on s'attend que si le revenu augmente, il y a un certain seuil. Alors, je ne peux pas avoir un chiffre pour mon bonheur qui est plus élevé que 10. Et ça, je trouve un problème parce que normalement, on pourrait dire, oui, le revenu augmente et je deviens encore plus content, mais à cause de votre échelle qui est fixe entre 0 et 10, je ne peux pas augmenter plus. Merci pour ces deux points et les réponses.
Alors, une petite réponse rapide. Sur le mariage, j'avais cru comprendre qu'on était très très heureux juste avant. Hein.
Oui, j'essaie. J'en suis désolé. Donc, pour le mariage est bon, bien sûr, il y a un problème de causalité. C'est pour ça que je lui fais une analyse, comme on dit, un effet fixe within the person. Okay? Donc, c'est le même individu qui est suivi. Donc, tout problème de sélection de causalité est éliminé là. En fait, quand on regarde, on coupe. Quand on regarde, si on prenait une photo des gens ici, on pourrait dire que les gens qui sont mariés sont plus contents que ceux qui ne sont pas mariés. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, et c'est parce que les grandes choses sont les mauvais choix. D'accord? Donc, personne ne peut se marier avec quelqu'un qui est malheureux. OK? Ce que je regarde ici, c'est le fait du mariage sur le même individu dans le temps. OK? Donc, je n'ai pas un problème de causalité de sélection. On peut en parler après, si vous voulez. OK. Adaptation au revenu, l'échelle est... fermé, ça c'est vrai aussi, on peut trouver les mêmes résultats si on élimine les gens qui sont en haut de l'échelle, donc il n'y a pas de problème. On peut trouver les mêmes résultats si on utilise ce qu'on appelle l'échelle ouverte, qui n'est pas fermée, recommended scale. Et on trouve les mêmes résultats, il me semble bien, dans la functional magnetic resonance imaging. Ça veut dire en neurosciences, la mesure de l'activité cérébrale. Et là, bien sûr, c'est limité par rien du tout. Donc, je crois que c'est les vrais phénomènes qui ne reflètent pas juste le fait que l'échelle soit fixe entre 0 et 10. Je crois que je suis conscient que c'est un problème. Merci.
J'espère que vous avez des éléments. Sur la résonance magnétique, pour ceux que ça intéresse, le CEA, en ce moment, a une équipe de chercheurs qui fait des études très très pointues sur justement les degrés de stimulation, de satisfaction et d'insatisfaction. Ils ont un nouveau scanner, enfin, je ne sais pas un scanner, c'est une nouvelle machine qui regarde ça, ça se connaît, c'est ça. Voilà, qui regarde ça et commence à publier des petites choses. Si ça vous intéresse, vous voyez le cerveau qui, avec des zones rouges, jaunes, bleues, c'est le bonheur, pas le bonheur, etc. Hein? Le bonheur est rouge, me dit-on. Voilà. Donc, alors, nous avons d'autres questions. Oui, monsieur.
Oui, je n'ai peut-être pas besoin de micro, mais c'est assez court. Est-ce qu'on peut être heureux dans une société égalitaire, selon vous? Puisque j'ai l'impression qu'on a forcément besoin du regard d'autrui pour être heureux. Ça voudrait dire qu'il faut forcément des inégalités dans la société.
C'est-à-dire, si on se regarde les uns aux autres, ça dépend dans quelle direction on regarde. J'ai été un peu ravi de là-dessus. J'imaginais que tout le monde se comparait à tout le monde. C'est même pas vrai. Hein? On peut se comparer en haut, on peut se comparer en bas. Si on se compare en haut, les inégalités, c'est une mauvaise chose. Parce qu'il y a certains individus qui gagnent beaucoup et on se dit fuite. Parce que mon revenu n'est pas très bon par rapport à ces gens en haut, quand la distribution est très inégale. Et c'est pour cela qu'en fait, le fait que certains traders à Londres, ils ont perdu le job à 2 millions par an, ça ne me fait pas trop pleurer. On peut aussi regarder en bas, et si on regarde en bas, on aime bien, dans un sens, une très large distribution, parce qu'on se distance des gens qui sont au-dessus de nous. Donc en fait, la réponse dépend de où on regarde. Okay? Et ça, ce n'est pas un sujet qui a été beaucoup traité en économie, je ne sais pas, tu en sais quelque chose, toi? Je ne sais pas.
Non, mais tout dépend de la perspective individuelle ou sociale, parce que tu peux maximiser le bonheur individuel sans maximiser d'un point de vue social et
misère. Ça, c'est ça le problème. Donc on ne sait pas, c'est la réponse. Ouais, vite.
Monsieur, vous avez parlé tout à l'heure de malheur. Est-ce que le fait de mesurer effectivement que le bonheur baisse, est-ce que ça veut dire forcément qu'on est plus malheureux? Et puis, deuxième question, au niveau, je dirais, des questionnaires, parce que si j'ai un enquêteur qui vient me poser des questions sur le bonheur, je n'ai peut-être pas envie de dire je ne suis pas très heureux, etc. Il y a une espèce d'obligation de répondre, donc il y a peut-être un biais, un petit peu comme dans les enquêtes politiques. Hein. Je ne veux pas dire que je suis d'extrême droite, alors bon, il y a un peu raciste, que je suis, etc. Est-ce qu'il y a des biais? Comment vous abordez la question?
Ok, je commence par le deuxième. Oui, bien sûr, il y a un biais. Personne n'aime dire, oui, en fait, je suis nul, ça va pas. Ma femme m'a quitté, j'ai pas de boulot, j'ai rien, ça va pas. Donc les gens mentent devant les gens. Et pour le bonheur, on peut imaginer qu'en fait, quand on regarde les distributions, il y a très peu de gens qui disent 1, 2, 3, 4 sur une échelle de 0 à 10. Il y a beaucoup de monde à 5, 6, 7, 8. Mais ça, statistiquement, c'est un biais uniquement si c'est lié avec le sujet de notre étude, par exemple le revenu, par exemple le mariage. Donc normalement, on considère que ce n'est pas forcément un problème. Il y a toute une littérature sur la validation des mesures de bien-être aussi qui semble trouver des résultats quand même assez solides. Quand moi je dis 6 et vous dites 5, vraiment, normalement, moi je vais mieux que vous. Hein? Donc c'est validé psychométriquement. Donc on a tendance à croire à ce que les gens disent. La première question, est-ce que bonheur égale moins malheur? Ça c'est une très bonne question. Surtout pour l'économiste. En économie, on aime bien ce qu'on appelle le single item measures. On utilise uniquement une question pour mesurer un phénomène. Et c'est très mal. Il ne faut pas le faire en psychologie, je me fais tuer tout le temps, parce qu'ils utilisent les échelles multiples avec un ensemble de questions. Par exemple, l'étude sur le chômage que je vous ai montré, la variable dépendance, qui s'appelle GHQ, c'est le résultat de 12 questions, dont 6 sont positives et 6 sont négatives. Donc c'est une échelle qui est hybride entre positif et négatif. Et c'est effectivement important de faire ça.
Oui, non, mais pour le bonheur et malheur, il y a quand même bien une opposition et des corrélations très fortement négatives. Et donc on sait bien quand même que la diminution du bonheur et l'augmentation du malheur, même si ce n'est pas un pour un, mais ce n'est pas là.
Si vous pouvez vous exprimer sans micro, vous avez un micro à côté de vous.
Une remarque et une question. La première, donc la remarque, pour voir un petit peu la richesse de l'approche,
et économique, mais aussi sur d'autres domaines que simplement le revenu, mais voilà, en effet, la famille, le mariage, le divorce. Donc, une petite remarque qui est quasi propagandiste. À l'heure actuelle, donc, il y a une réforme de l'éducation nationale, donc les sciences économiques et sociales, celui qui mélange donc, l'approche économique et aussi sociologique, eh bien, on veut scinder les deux approches en deux pour faire de l'économie simplement ou de la sociologie simplement. Et en fait, on voit la fécondité si vous voulez, des deux approches pour mieux comprendre les choses. Bon, voilà, ça c'est, j'arrête là. Maintenant, je vais à la question quand même, c'est ça qui nous intéresse. Donc, c'est montré aussi face à ce que vous présentiez là, c'est-à-dire mon bien-être parce que je suis plus riche ou parce que je consomme plus est altéré lorsque les autres sont aussi plus riches ou consomment la même chose. En fait, il y a une réponse des publicitaires notamment et des entreprises en elles-mêmes, c'est de dire on va essayer de singulariser ou de catégoriser le plus possible les consommateurs. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Voilà, si en proposant un peu les styles, si vous voulez, qu'on propose à la jeunesse, alors bon, il y a des tectoniques, là, donc ils dansent sur une certaine musique, ils sont habillés d'une certaine manière. Je peux prendre un exemple un peu plus ancien, si vous voulez, voilà, les punks, bon, j'ai une crête et j'ai des Doc Martens. Alors, bon, si je prends délibérément des choses un petit peu caricaturales pour montrer que de façon plus fine, on va le proposer aussi aux adultes, si vous voulez, c'est de dire oui. Voilà, je reprends mon jeune punk, si vous voulez, il veut des Doc Martens. Alors, si lui achète ses Doc parce qu'il est devenu plus riche et que les autres autour de lui les achètent, il est très content. Et le fait que les autres n'auront pas l'idée d'acheter la même chose, parce que justement, ça ne l'intéresse pas. Alors, le discours publicitaire va faire exactement la même chose, c'est-à-dire, vous appartenez à une catégorie particulière, il faut aller vers ce bien-là. Et si les autres s'équipent de ce bien-là, votre tribu, en quelque sorte, elle va exister aussi. Donc vous serez encore plus content d'être dans ce groupe qui vous fait exister vous-même. Donc finalement, c'est une manière de contourner un petit peu ce que vous disiez. C'est-à-dire, cette fois-ci, que les autres consomment la même chose, eh bien, me rend en fait plus heureux. Je ne sais pas si c'est des pertinents.
En gros, est-ce que les modes de consommation peuvent... La segmentation des modes de consommation, si je vous trahis, vous me recorrigez, est-ce que la segmentation de nos modes de consommation altère votre analyse sur la corrélation revenu-bonheur ?
Ça, c'est pour décollant,
c'est que... Moi, j'ai une réponse pas du tout sur la question exactement, mais sur un transfert, parce que moi, je fais de la science politique, donc je connais mieux du côté politique, et sur le militantisme, vous avez un petit peu cette même perspective. Est-ce qu'un militant d'un parti politique est plus heureux quand il y a beaucoup d'autres militants dans son parti, ou moins ? Et quand même, ce qu'on avait tendance à trouver, mais de manière plutôt qualitative, c'était que l'augmentation des tailles, des memberships des partis, était plutôt corrélée à une baisse de l'activité militante et à une moindre implication de chacun des militants, même des militants historiques, dans le parti. Et donc, c'est pas absolument certain que la capacité militante apporte un bonheur parfait quand elle réussit. Et c'est un peu toute la théorie des minorités et de la cohésion des groupes, des petits groupes.
Donc voilà. Les autres marqués, ça ne fait pas le bonheur.
Bah, il ne faut pas qu'il y en ait trop quand même.
Bon, non, le phénomène de tribu, oui, absolument, ça existe. Je crois que ça a existé avant les entreprises, ça existe toujours maintenant. Est-ce que les entreprises jouent dessus ? Sans doute que oui. Est-ce que ça rend les comparaisons sociales plus néfastes ou plus réjouissantes dans un sens ? Parce que quand on est tous ensemble, on fait tous la même chose, c'est peut-être mieux. Là, c'est très difficile d'avoir les données qui nous permettent de répondre à ça de façon statistique. Moi, je dirais, en tant qu'Anglais qui avait 13 ans en 76, donc vous pouvez faire le calcul, que le punk n'était pas vendu à l'époque. Hein. C'est en vente de toutes pièces.
Oui, madame.
J'ai une question. Est-ce que c'est possible de mesurer la mesure dans laquelle l'adaptation estompe l'effet de comparaison sociale ?
Vous pouvez. Moi, personnellement, je n'ai pas compris, mais je sais qu'on doit compris, mais moi, non. Vous pouvez reformuler, s'il vous plaît ?
Bien sûr. Est-ce que c'est possible de trouver un modèle ou une formule pour mesurer...
Je veux dire un modèle économétrique
Non, ma question en fait c'est, est-ce que c'est possible de mesurer dans quelle mesure l'adaptation, l'effet de l'adaptation estompe l'effet des comparaisons sociales ?
Est-ce que la réponse non, ça vous suffit? On a eu tendance à regarder soit comparaison sociale, on fait toujours ça en économie, en fait. Quand on fait les analyses empiriques, on a la question qui nous intéresse, tous les autres, on les balaye. Donc on a fait pas mal d'études sur comparaison sociale, moi je compare à vous, etc. On a fait encore moins d'études sur l'adaptation, je m'habitue à X. On n'a pas, à ma connaissance, fait une étude sur les deux en même temps, pour voir si l'un dépend de l'autre. C'est ça que vous voulez savoir?
Non, je voulais savoir, est-ce que, parce que pour moi, la comparaison sociale, ça augmente le bonheur.
Ça dépend de vous.
Disons que ça nous donne une sensation de bonheur, tandis que l'effet de l'adaptation, ça estompe la sensation de bonheur.
Oui.
Donc, dans quelle mesure l'adaptation, il tue cet bonheur qui...
Disons qu'on croit que les deux phénomènes existent en même temps. Ok? Donc...
Quel est le plus fort?
Est-ce que vous voulez dire, est-ce qu'on s'habitue au statut social?
Non, ça, je sais qu'on s'habitue au statut social.
Ah, quel est le fait le plus fort entre les deux?
Exactement.
Ah,
merci.
Je sais pas.
Je vous remercie.
Donc, il y a sérieusement, il y a certains phénomènes où on peut dire, par exemple pour le chômage, l'effet de comparaison sociale existe, l'effet d'adaptation est très, très faible. Pour d'autres, par exemple pour le revenu, quel est le plus fort? Ça dépend comment on paramétrise le modèle, ça dépend où on est dans la distribution quand même. Disons qu'on peut regarder les résultats des estimations économétriques et donner une réponse précise à votre question du moment où vous me dites combien vous gagnez, combien vous avez gagné dans le passé et combien on gagne surtout votre groupe de référence. Donc ça c'est possible. Sans ces informations-là, je ne peux pas vous donner une réponse exacte, mais c'est possible de calculer. Oui.
J'ai encore une autre remarque. Merci pour votre première réponse.
Oui.
Je ne vois pas l'éducation dans votre liste de recettes. Pour revenir à vous, il y a le revenu, l'emploi, famille, santé. Est-ce que l'éducation n'a aucune influence sur le bonheur?
C'est où la sortie? Right. Ok. L'éducation a un effet positif sur le bonheur, tel quel. Ça, juste tout seul, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et surtout parce que ça permet à accéder aux postes qui sont sans doute plus intéressants, plus réjouissants et d'ailleurs où on gagne mieux. Ok, donc ça je peux vous dire, l'éducation dans ce sens-là, c'est une bonne chose. Si, dans les analyses sur les données britanniques que j'avais faites, hein, si on contrôle pour le revenu dans un sens statistique, l'éducation réduit le bonheur. Ça veut dire que si je gagne 20 000 par an, et j'ai un 12, je suis moins content que quelqu'un qui a une licence qui gagne 20 000 par an. Et on imagine que ça c'est peut-être parce que l'éducation augmente les attentes aussi. Donc ça augmente les rendements, on gagne plus, mais peut-être qu'on s'attend à gagner plus aussi. Donc l'effet net n'est pas clair, mais je crois que c'est positif.
Je vous remercie.
Alors un petit peu tout au fond là-bas, parce qu'on a tout un bloc et on va aussi donner un peu la parole au fond de la salle, et puis ensuite on reviendra en devant. Posez vos questions le plus brièvement possible, si vous voulez qu'Andrew puisse vous répondre, parce que comme Andrew a tellement de choses à nous dire et que nous avons 5 minutes.
Je vais essayer
en tout et pour tout.
Je vais essayer d'être très brève. Certains des résultats que vous avez montrés sont assez contre-intuitifs pour une population ex-santé, en termes de questions ex-santé. Bon, les questions que vous avez posées, c'est des questions aux gens qui ont été dans les situations. Donc, la question qui me vient, c'est une question de politique publique, et c'est la suivante. Le décideur public, il s'appuie sur quoi? C'est-à-dire, est-ce qu'il s'appuie sur des notions de préférence ex-santé tel que c'est fait par exemple en économie de la santé, ou est-ce qu'il s'appuie sur les notions de préférence ex post? Et c'est tout le débat sur l'utilité d'expérience qui est fait par Kahneman, entre autres. Voilà, je voudrais avoir votre avis sur cette question.
J'avais espéré qu'on allait éviter cette question. Les préférences ex ante et les préférences ex post, c'est la différence entre la vie, quand on est en train de le vivre, d'instant à instant à instant, et notre souvenir de la vie après. Notre mémoire de la vie après. Et les deux ne sont pas la même chose pour les raisons, comme Danny Kahneman a dit, pour les raisons de biais cognitifs. On a tendance à oublier certaines choses, à surévaluer d'autres choses, à imaginer que certaines choses étaient plus importantes qu'en fait elles n'étaient pendant qu'on était en train de les vivre. Ce qu'il faut faire, le décideur politique, il y a deux choses. Soit on maximise le bonheur vécu, soit on maximise le bonheur, comment dire, souvenu, c'est ça?
Mémorisé.
Le problème, moi je dirais juste comme ça qu'il faut maximiser le bonheur vécu. Le problème, c'est que l'individu qui vote, il vote en fonction de ses souvenirs. Donc il peut décider, il peut être pour, on peut avoir le phénomène que les gens votent pour une politique qui le rend moins heureux. Parce qu'en fait, ils ont des problèmes de mémoire. Il y a des biais cognitifs quand on évalue les choses. Donc peut-être que l'intervention réelle doit agir sur les biais cognitifs.
On va voir si Nicolas, qui lui regarde la politique.
Voilà, non, mais c'est juste sur les politiques publiques, quand même, que la relation entre décision publique et préférence, que ce soit au niveau électoral général ou de la population spécifique, elle est quand même relativement lâche. Et donc peut-être à la limite que la différence entre ex post et ex ante est très mineure dans la décision publique par rapport aux autres logiques qui déterminent la politique publique. Mais...
C'est une des hypothèses de travail de Nicolas apparemment. Nous avons encore, allez, deux questions si elles sont brèves et nos réponses seront brèves aussi. Oui, vous, allez, depuis tout à l'heure, je vous sens impatient de vous exprimer et on vous avait presque oublié. Et puis tout au bout là-bas pour la dernière question.
Merci. Je souhaiterais savoir, concernant l'adaptation de revenus, si vous aviez pu calculer un taux de retournement, un point de retournement en termes de revenus, à partir duquel justement on ne peut plus retourner en arrière.
Merci. Je vais vous rendre malheureuse, là, si je vous le dis. Quand on a regardé ça, on a juste modélisé ça de façon générale, on a regardé l'effet moyen. Qu'il y ait l'effet d'adaptation pour tout le monde. Donc, on n'a pas distingué entre le fait de s'habituer à un revenu de 2500 par mois et le fait de s'habituer à un revenu de 20 000 par mois. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on aurait pu faire, on n'a pas fait. Donc, je n'ai pas de réponse exacte à votre question. Mais Nicolas, là.
Donc, c'est l'objet probablement d'une prochaine étude annexe. Allez! On a promis 15h30, donc la toute dernière question, tout au fond. Je vois une main qui se lève avec beaucoup de constance depuis tout à l'heure. Et ben voilà, le micro vient à vous.
Oui, alors, bonjour. Je voulais vous poser une question, en fait. Je m'étonne de ne pas avoir vu, un facteur qui me paraît très important et qui est pris en compte autant par les municipalités que par les entreprises de plus en plus. C'est le facteur environnement, donc sur le bonheur. À savoir qu'effectivement, on a tendance à être plus heureux à la campagne autour des papillons qui volent que dans les villes au milieu de la fumée.
C'est un présupposé, ça, on va voir s'il est vrai. On va voir s'il a un fondement scientifique, ce présupposé des papillons et des vaches, et des chiens qui vous courent après quand vous vous baladez.
Donc la question ici, c'est est-ce qu'on s'habitue aux papillons? C'est ça? Et les chiens qui courent après, voilà.
Les chiens qui courent après quand tu vas chercher.
J'ai toujours la même réponse, c'est que je ne sais pas. Mais on a fait des études assez intéressantes tout récemment sur les données qu'on appelle geocoded, donc géocodées, où on peut identifier les géocodisés.
Géolocalisés.
Ah, ok, géolocalisés, si vous voulez. geocoded. On sait où les individus habitent. Et on sait ce qu'il y a autour d'eux, et surtout on peut calculer un pourcentage de verdure. autour d'eux, et on a trouvé que ça, effectivement, s'est corrélé positivement et statistiquement avec le niveau de qualité de la vie, de bonheur, de satisfaction. Donc le verdure, c'est très bien, on n'a pas les mesures exactes des chefs. Hein. Ça, c'est un problème. C'est pas normalement dans nos enquêtes, mais la question de est-ce qu'on s'y habitue, ça c'est une très bonne question, et j'ai pas la réponse pour l'instant. Ceci, je vous dis juste pour terminer, c'est un domaine d'étude qui n'existait pas il y a 15 ans en économie, ni peut-être pas en sciences politiques, et très peu en sociologie. Donc on est historiquement tout au début, il y a beaucoup de questions qui restent ouvertes, et c'est ça qui rend ce sujet tellement intéressant pour nous, et j'espère pour vous aussi. Merci.